Et en guise de dernière chronique pour notre année sur la radio Corona, on va écouter Apolline et Zoën qui vont nous parler d'Anne Frank.
Fiche d'identité, nom de naissance, Annelise Marie Frank. Elle est née le 12 juin 1929 à Francfort-sur-le-Main, la République de Weimar. Décès, février 1945 à 15 ans, du typhus. Dans son journal, elle a écrit en néerlandais. Son journal, c'est une autobiographie.
Biographie courte d'Anne Frank. Annelies Marie Frank est née le 12 juin 1929 à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne. Lors de l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler en 1933, Anne Frank s'exile avec sa famille juive en Hollande pour fuir le régime nazi. À partir du 6 juillet 1942, Anne Frank, ses parents et sa sœur Margot sont contraints de se cacher dans une arrière-salle de la société détenue par Otto Frank pour échapper aux rafles nazis. Anne Frank tient un journal intime qu'elle rédige en néerlandais de juin 1942 à août 1944. Le 4 août, elle et sa famille sont arrêtées et déportées suite à une dénonciation. Anne Frank est alors transportée à Auschwitz, puis au camp de concentration de Bergen-Belsen, en Allemagne, où elle meurt du typhus en février 1945.
Le livre d'Anne Frank. C'est le 12 juin 1942, pour son 13e anniversaire, qu'Anne Frank reçoit son fameux petit cahier intime à carreaux rouges et blancs. À partir de ce jour et jusqu'à son arrestation par les nazis le 4 août 1944, elle écrit son journal en s'adressant à Kitty, une amie imaginaire. Issue d'une famille juive allemande, Anne Frank va vivre cachée avec les siens dans la partie désaffectée d'un immeuble d'Amsterdam. Une amie de la famille, Mip Gies, retrouvera son journal et le remettra à son père, Otto Frank. Seul rescapé d'Auschwitz, il publiera le journal de sa fille en 1947. Le journal d'Anne Frank, témoignage des souffrances endurées par les opprimés du nazisme, est un récit poignant aujourd'hui encore lu par des millions de personnes à travers le monde.
Résumé de son histoire avant son arrestation. Anne Frank, seconde fille d'Otto Heinrich Frank, son père, et d'Edith Frank Hollander, sa mère, elle a une grande sœur prénommée Margot. Son nom de naissance est Annelies Marie, mais pour sa famille et ses amis, elle est simplement Anne. Son père l'appelle parfois Anne-Hélène, petite Anne. La famille vit dans une communauté mixte de citoyens juifs et non-juifs. Les Francs sont juifs réformistes, pratiquant beaucoup de traditions de la foi juive, sans observer l'ensemble des coutumes. Dans la famille, Edith est la plus dévouée à sa foi. Otto Frank, ancien officier allemand, décoré pendant la Première Guerre mondiale, veut poursuivre ses études et possède une importante bibliothèque. Les deux parents encouragent leur fille à lire. En 1933, les élections pour renouveler le conseil municipal de Francfort voient le parti nazi d'Adolf Hitler l'emporter. Des manifestations antisémites ont immédiatement lieu et les Francs commencent à craindre pour leur sécurité s'ils restent en Allemagne. Plus tard, la même année, Edith et les enfants se rendent à Aix-la-Chapelle pour habiter avec Rosa Hollander, la grand-mère d'Anne et Margot. Otto Frank reste à Francfort, mais après avoir reçu une offre pour démarrer une affaire à Amsterdam, il s'y rend pour organiser la société et préparer la venue de sa famille.
Otto commence à travailler chez Opecta Works, une société qui vend la pectine extraite des fruits, et trouve un appartement à Merwedeplein dans la banlieue d'Amsterdam. En février 1934, Edith et les enfants arrivent à Amsterdam et les deux filles sont inscrites à l'école. Margot dans une école publique et Anne dans une école montessorienne. Margot montre ses facultés en arithmétique et Anne découvre ses aptitudes à la lecture et l'écriture. Son amie Anna Goslar se rappellera plus tard que pendant sa tendre enfance, Anne écrivait régulièrement cachant ses écrits avec sa main et refusant de discuter du contenu de ceux-ci. Ses écrits précoces n'ont pas traversé l'histoire et ont été égarés. En 1938, Otto Frank démarre une seconde affaire en partenariat avec Hermann van Pels, un boucher qui avait fui Osnabrück en Allemagne avec sa famille. En 1939, la grand-mère de Anne et Margot vient vivre avec les Francs et reste avec eux jusqu'à sa mort en janvier 1942. En mai 1940, l'Allemagne envahit les Pays-Bas. Le gouvernement d'occupation commence à persécuter les Juifs en instaurant des lois répressives et discriminatoires. L'inscription obligatoire et la ségrégation des Juifs s'en suivent rapidement. Margot et Anne excellent alors dans leurs études et ont de nombreux amis, mais l'application d'un décret statuant que les enfants juifs ne peuvent suivre des cours que dans des écoles juives, elles sont contraintes de s'inscrire au lycée juif.
Dénoncées en 1945, les Francs avaient été déportés dans un camp d'extermination. Seul survivant de la famille, son père, Otto Frank, a retrouvé le journal de sa fille après la guerre. Il l'a fait publier. Il a depuis été traduit en plus de 70 langues et s'est écoulé à environ 30 millions d'exemplaires dans le monde.
70 ans après la mort d'Anne Frank dans le camp de Bergen-Belsen, en mai 1945, deux investigateurs ont révélé l'identité de celle qui, en dévoilant la cachette de la famille franco-nazie, les a condamnés à mort. Jeroen de Bruyn et Job van Wijk affirment dans un livre paru mardi 7 mars que Nelly Voskouji pourrait avoir dénoncé la famille juive en 1945. Extrait du journal d'Anne Frank, samedi 20 juin 1942. « C'est une sensation très étrange pour quelqu'un dans mon genre d'écrire un journal. Non seulement je n'ai jamais écrit, mais il me semble que plus tard, ni moi ni personne ne s'intéressera aux confidences d'une écolière de 13 ans. Mais à vrai dire, cela n'a pas d'importance. J'ai envie d'écrire bien plus encore, de dire vraiment ce que j'ai sur le cœur. Une bonne fois pour toutes à propos d'un tas de choses. Le papier a plus de patience que les gens. Ce dicton m'est venu à l'esprit par un de ces jours de légère mélancolie où je m'ennuyais, la tête dans les mains, en me demandant dans mon apathie s'il fallait sortir pour rester à la maison. Oui, c'est vrai, le papier a de la patience. Et comme je n'ai pas l'intention de jamais faire lire à qui que ce soit ce cahier cartonné pareil du titre pompueux de journal, à moins de rencontrer une fois dans ma vie un ami ou une amie qui devienne l'ami avec un grand A.
Mardi 1er août 1944. Cher Kitty, j'ai peur que tous ceux qui me connaissent tel que je suis toujours ne découvrent mon côté, mon autre côté, le côté le plus beau et le meilleur. J'ai peur qu'ils se moquent de moi, me trouvent ridicule, sentimentale, ne me prennent pas au sérieux. J'ai l'habitude de ne pas être prise au sérieux, mais seule l'âne insouciante y est habituée et arrive à le supporter. L'âne profonde n'en a pas la force. Quand il m'arrive vraiment de me forcer à soumettre la gentille âne au feu de la rampe pendant un quart d'heure, celle-ci se rétracte comme une sensitive dès qu'elle doit ouvrir la bouche, laisse la parole à âne numéro 1 et a disparu avant que je m'en aperçoive. En société, la douce âne n'a encore jamais, pas une seule fois, fait son apparition. Mais dans la solitude, elle l'emporte toujours. Je sais exactement comment j'aimerais être, comment je suis en réalité à l'intérieur, mais malheureusement, je ne le suis plus pour moi-même. Et c'est sans doute non, c'est certain pour cette raison que je ne prétends avoir une nature intérieure heureuse, tandis que les autres gens voient en moi une nature extérieure heureuse. À l'intérieur, l'âne pure ne me montre le chemin à l'extérieur. Je ne suis rien d'autre qu'une petite chèvre turbulente qui a arraché ses liens.
Merci beaucoup. Est-ce que vous avez été le lire ce... Ouais, bravo, hein. C'est super. J'ai déjà vous applaudir.
Il était super.
C'est très complet, ouais. Est-ce que vous l'avez lu, du coup, et puis Guillaume qui nous a fait également un exposé sur Anne Frank, comme on n'était pas dans le même groupe. Est-ce que vous avez eu la curiosité de lire en entier?
Non, mon père à la base il l'avait, mais quand on a essayé de le chercher pour copier des moments un petit peu pour l'exposer, bah je l'ai pas retrouvé, donc j'ai jamais pu lire.
D'accord, je vous l'avais mis en lien hein, parce qu'il est trouvable ce qu'on appelle le tapuscrit, c'est-à-dire le texte en entier, il est trouvable sur internet et je vous l'avais mis. Je peux vous le remettre si vous voulez. C'est vraiment intéressant que pendant les vacances, vous le lisiez là. Tant que tout ça, c'est encore un petit peu frais.
Oui, juste, c'est quoi le typhus?
Ah,
c'est une maladie.
Oui, alors, c'est quoi ce qu'on avait dit sur cette maladie?
Je peux l'expliquer, moi, je m'en souviens bien.
Alors, vas-y.
C'est une maladie qui, à l'époque, était la plupart du temps mortelle, mais que maintenant, je crois qu'on arrive à la traiter et même à la guérir. Et elle se développe surtout dans les endroits crasseux, où il y a des maladies, le rat, je crois qu'il donne cette maladie, dans les égouts, les endroits vraiment pas très propres.
Les puces et les poux aussi, je crois. Et effectivement, on pouvait en mourir à cette époque-là, et c'est aussi une question d'hygiène, tout à fait. Donc vous imaginez bien que dans les camps, l'hygiène n'y était pas. Et donc, il y avait beaucoup d'enfants et beaucoup de personnes âgées, puisque c'est les personnes les plus vulnérables par rapport à cette maladie qui en décédaient. Space Thomas DS4, est-ce que tu as une question à poser à Pauline et Zoën ?
Ça a été complet, donc bravo.
D'accord, très bien. Eh ben merci beaucoup. Et puis, vraiment, lisez-le, là. Au début des vacances, c'est peut-être pas facile, hein, mais je vous y engage. On peut encore les applaudir. Merci beaucoup, les filles.